Ceci est un message du ministère de l'Éducation populaire. Une fois par semaine, les fonctionnaires du ministère de l'Éducation populaire prennent l'antenne de Radio Piquet pour donner la parole à celles et ceux qui l'apprennent mieux que nous.
Nous avons rencontré Aude Vidal, invitée par le collectif Pas d'avenir sans avenir le 30 mai 2018 à Brest, pour parler de son livre Égologie, sous-titré Écologie, individualisme et course au bonheur, paru aux éditions Le Monde à l'envers. On remercie Aude qui a répondu aux questions des Piquet dans la première partie de ce MEP et on remercie aussi l'avenir d'avoir eu la bonne idée de l'inviter. Tu peux retrouver son intervention à l'avenir dans la partie suivante et les débats et discussions qui ont suivi dans la troisième partie de ce MEP. Les fonctionnaires du ministère de l'Éducation populaire te souhaitent une bonne écoute. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Piquet. On reçoit aujourd'hui Aude Vidal de passage à Brest, ce mercredi 30 mai, pour un apéro discussion à 19h à l'Avenir, rue Bugeaud à Brest. C'est un débat autour de son livre Égologie, sous-titré Écologie, individualisme et course au bonheur, paru en 2017 aux éditions Le Monde à l'envers. Donc c'est un livre que je n'ai pas lu, mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que la petite librairie du quartier a été dévalisée ces 15 derniers jours. Ah. Donc c'est la nouvelle de la venue d'Aude.
Ah, t'en as pas trouvé d'exemplaire ?
Non.
Oui, parce qu'il est en réimpression en ce moment.
C'est ce qu'ils m'ont dit.
Il était épuisé.
Voilà.
Okay, et disons. Moi aussi un petit peu d'ailleurs, hein, mais c'est autre chose.
Ouais, mais elle m'a dit ouais, dévalisé en 15 jours. Donc je suis allée sur ton blog, qui s'appelle « Mon blog sur l'écologie politique », et j'ai écouté l'émission sur Radio Dragon et une discussion enregistrée à la librairie La Griffe. Donc ça, c'était vachement intéressant.
Une librairie anarchiste lyonnaise tenue par des bénévoles.
C'était vachement chouette et vivant comme discussion. Et donc je me suis dit qu'après tout, le sujet était intéressant. Tant pis, j'ai pas lu le livre, mais saisissons l'opportunité. Donc ce que j'ai compris comme ça en écoutant un petit peu, c'est que j'avais l'impression que le bouquin s'adresse à tout le monde, évidemment, mais aussi aux militants écologistes et alter-écologistes pour leur faire prendre conscience, en fait, de... que dans leur discours, leur idéologie, ils sont imprégnés en fait d'idéologie libérale et individualiste, et aussi dans leur pratique, qu'il y a des choses en fait où ils renforcent cette idéologie libérale et individualiste. Donc du coup, en même temps. Ça pourrait donner l'impression que tu donnes des leçons du coup aux gens, mais ce que j'ai trouvé sympa dans le ton que tu avais, c'était aussi de dire mais c'est pas du tout je vais pas donner des leçons aux gens, mais par contre je vous fais prendre conscience de ce que moi j'ai pris conscience. Mmh. Et du coup tu faisais souvent référence aussi au fait que tu avais milité dans une association et que t'étais pas disons que ce que tu penses aujourd'hui tu le pensais pas il y a 10 ans. Et que je voulais savoir un petit peu dans ton parcours, qu'est-ce que c'était que cette association déjà ? Mm-hmm. Et comment entre tes idéaux de départ et qu'est-ce qui peut-être t'a fait prendre conscience que certaines pratiques n'allaient pas dans le bon sens ou...
Oui, d'abord sur ce que t'as dit, le truc de... L'idée, c'est pas forcément de dire que les militants écolo-alternatifs sont plus individualistes et libéraux que la moyenne. C'est juste qu'on l'est tous. Et donc, moi, je me suis intéressée à eux cette fois, mais il y en aura peut-être d'autres. Et donc, je suis allée voir comment est-ce que ce truc-là qui infuse chez nous, enfin, qui infuse en nous tous, il se traduit dans les alternatives écolo, sachant qu'après, je pense qu'il peut se traduire aussi... Enfin, je pense que pour tout le monde, selon son milieu politique, il se traduit différemment, mais il y a cette différence entre quelque chose dans lequel on a bien infusé et puis des valeurs qu'on met en avant, qui sont des valeurs qui sont vachement différentes de... liens sociaux, enfin de plus de liens entre les gens, de solidarité, de justice, de tout ça. Et comment est-ce qu'on se débrouille avec ? Et c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression, au fil des années d'engagement et tout, qu'en fait, on se faisait beaucoup... oui, on n'était pas spécialement à la hauteur de nos idéaux. Et notamment, parce que j'ai vécu ce truc-là de rester trop longtemps dans une association de jeunesse. Je suis restée 10 ans dans une asso de jeunes écolos alternatifs et solidaires qui s'appelait Chiche. Je sais pas si je les cite dans le bouquin ou pas. Mais en tout cas, il y a ce truc-là de... En plus, il y a le monde qui change. Mais ensuite, c'est vraiment un moment dans la vie quand on a 20 ans, 25 ans. Et quand on a 30, 35, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé. Et le premier truc qui a changé, c'est l'embourgeoisement. C'est l'insertion dans une vie un peu normale. Et c'est le fait qu'on est passé de ce moment-là où on était étudiant et où il n'y avait pas vraiment de classe sociale, on était la classe sociale des jeunes, et à ce moment-là où en fait on s'aperçoit qu'on est tous dans une classe sociale. Et moi je me suis retrouvée dans une classe sociale où j'étais pas super contente et tout, parce que j'étais au chômage du pendant très très longtemps. Et donc je pense que j'étais plus mécontente a priori que mes camarades qui se retrouvaient dans la classe sociale cadre sup, et pour beaucoup d'entre eux. Et du coup, il y a ce moment-là, je pense, d'indétermination, de tout est possible, de c'est super et tout. Et au bout d'un moment, 10 ans après, on fait le constat que, ben, en fait, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont des petits bourgeois et pour qui l'écologie, c'est plus rien qu'une manière de manger des bonnes choses et de vivre d'une manière agréable en faisant des loisirs pas trop cons, quoi. Et je pense que c'est pas juste l'esprit du temps, enfin pas l'esprit du temps, mais c'est pas juste, parce qu'il y a plein de choses qui ont changé hein, dans ces 10-15 années là, mais il y a aussi ce truc là de, vraiment c'était un moment de la vie aussi où il y a plein de choses qui remuent quoi, et peut-être que si j'étais une squatteuse, j'aurais commencé en squat à, je pense j'avais 22 ans quand j'ai commencé, et peut-être là, je serai là à 40 ans quand même aigrie parce que, évidemment, il y a plus de squatteurs super jeunes que de squatteurs de 40 piges. Et un jour, d'ailleurs, ça faisait partie de mon parcours, un peu, enfin, partie de la genèse un peu d'écologie. À un moment, j'avais interviewé des gens des squats pour un numéro d'une revue qui s'appelle L'An 02. Et c'était un dossier sur les splendeurs et misères de l'action collective. Et qui s'appelait « Ensemble, c'est trop ?» point d'interrogation. Et on avait interviewé ensemble, enfin de manière croisée, on avait fait une discussion à plusieurs, avec une fille. Donc il parlait de qu'est-ce que c'était d'être une fille dans le milieu squat, et puis comment elle pouvait se trouver confrontée au sexisme, et un type de 40 berges. Et le garçon de 40 ans, c'était plus aussi sur ce truc-là d'un engagement dont on se dit « Ouais, il va durer toujours, toute ma vie, je serai en squat et tout. » Puis voilà, tu tombes amoureux, amoureuse, t'as envie d'avoir des gosses, et puis hop, le truc, il est fini, tu te retrouves locataire, voire proprio. Et bref, comment on est rattrapé par... Mais ça, c'est vraiment un truc en plus particulier par rapport à ça. Je pense que... Enfin, c'est vraiment un truc qui accentue le côté désillusion, en fait. Mais par exemple, dans les rencontres que j'ai faites, là, ça m'est arrivé aussi de rencontrer des gens qui étaient désillusionnés pour un peu d'autres raisons, qui étaient désillusionnés, surtout parce qu'ils se sont fait beaucoup d'illusions, comme moi aussi, j'étais vraiment à fond. Donc, ouais, je pense qu'il y a aussi ce truc-là de la réalité, de 10 ans de réflexion, tout ça. Donc ouais, ça vient pas mal de là.
Ok.
Mais c'est pas un parcours singulier, c'est pas si singulier que ça, en fait. Je pense que les gens qui sont pris dans des groupes où il y a des logiques sociales, où ils se retrouvent à être issus de classes populaires, militer avec des bourgeois, et ensuite se rendre compte, avoir l'impression que en fait, tout le monde est pareil et tout, puis en fait, au bout d'un moment, ils se rendent compte que non. C'est pas mon truc, en fait. Moi, je viens de la petite bourgeoisie. Mais des gens qui ont ce genre de désillusion par rapport au fait qu'on se ment sur le fait qu'il y a des inégalités entre nous, des inégalités. Il y a des filles qui sont désillusionnées aussi parce qu'on leur dit non, mais c'est super, nous on est un groupe antisexiste, on est super pro-féministe, et en fait on s'aperçoit que non. Ce genre de désillusion, ça arrive aussi à plein d'endroits, quoi.
Oui, oui, dans plein de collectifs. Ouais. Quand j'ai tapé sur Internet au début Aude Vidal, écologie, je suis tombée sur un site, ça m'a fait rire parce que c'était le site de la librairie De Citre, qui a 10 librairies en France et un site de vente en fait.
Ouais, qui a un gros site de vente en ligne qui est bien référencé, on tombe facilement dessus.
Et ben, ce qui m'a étonnée, c'est que il y avait la description et puis un petit onglet vers le bas avec le petit pouce quoi, donc où il y avait marqué si vous avez aimé, vous aimerez aussi. Ah. Pierre Rabhi, La convergence des consciences. Et il y avait un autre livre conseillé, un livre préfacé par Nicolas Hulot, Famille presque zéro déchet, The Guide.
Oh,
je me suis dit que ça te ferait peut-être pas très plaisir comme.
Ah oui, c'est une grosse erreur de casting, l'algorithme de machin, il marche pas très très bien. Non, alors, est-ce que à côté de quel livre on aurait dû me mettre les livres que je cite le plus souvent dans le bouquin. Alors je cite un bouquin sur le développement personnel qui s'appelle « Du bien-être au marché du malaise » de Nicolas Marquis, qui est un sociologue belge qui a étudié les lecteurs et les lectrices de développement personnel. Et c'est lui qui a porté les billes pour montrer à quel point c'est vraiment très très empreint de libéralisme et d'individualisme. Ce qui est vachement étonnant, parce qu'en fait, quand on les lit, les bouquins, les gens, ils font les mêmes constats que dans la sphère politique, enfin, plutôt pas super radical et tout, mais les mêmes constats de le lien social, il s'est vachement délité, les gens sont plus solidaires.
Le problème, c'est l'individualisme.
Oui, on est en crise et tout. Et finalement, c'est après, une fois qu'on regarde comment ça se passe, quoi, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est très individualiste et très libéral, alors que des gens qui se prononcent très, très à fond contre tout ça.
Tu parlais un moment dans ce que... Je ne sais plus à quel moment, de quelle émission que j'ai écouté, mais tu disais le développement personnel, c'est... Et tu mettais en face le syndrome du bien-être.
Ah oui, le syndrome du bien-être, c'est un bouquin aussi. J'y pensais pas tout de suite, mais oui, je l'ai beaucoup exploité. C'est un bouquin chez l'éditeur L'Échappée. Et les types, les auteurs ont des noms pas très très faciles à se rappeler. Je crois qu'il y en a un, Cederström, un truc comme ça, qui a un nom scandinave, je sais pas trop. Et c'est deux profs de, on va dire, sciences sociales dans des écoles de management et tout, et qui sont allés voir aussi du côté de l'entreprise, notamment comment est-ce que la question du bien-être était récupérée. Et ce bouquin était passionnant, et puis il renvoyait ensuite derrière pas mal de ressources que j'ai utilisées, des articles. Par exemple, il y avait une tribune qui avait été écrite par deux profs de méditation, de pleine conscience, voilà, méditation de pleine conscience, qui sont invités à aller en entreprise qu'il y a un boom de la méditation en entreprise. T'as des gens en entreprise, alors je sais pas si c'est les... comment on appelle ça ? On m'avait raconté cette histoire des gens qui c'est le monsieur ou madame bonheur de l'entreprise. Donc ils ont un conseillère en bonheur. Déjà en fait des entreprises où ils font attention au bien-être des salariés. Mmh. Et ils imaginent faire des trucs conviviaux, ils imaginent faire ci, faire ça, et notamment faire des trucs de méditation comme ça entre midi et deux. Et puis en fait, c'est un gros, gros boom de la méditation d'entreprise. Et ces mecs-là disent que eux, ils sont convaincus que la méditation, c'est super bien, que ça a un potentiel subversif énorme, parce que Bouddha revolutionary, machin. Et bref, ils ont une idée tellement élevée aussi de la méditation, c'est pas parce qu'ils pensent... Enfin, qu'ils pensent que c'est vraiment pas chouette de l'utiliser en entreprise pour faire en sorte que les gens, ils tiennent plus longtemps à leur poste de merde.
Oui.
Et que c'est pas que si la raison pour laquelle le monde de l'entreprise s'intéresse à ça, c'est pour pouvoir exploiter les gens plus fort et plus longtemps. Et ils sont absolument vraiment choqués par ce truc-là de la question du bien-être en entreprise, qui est un peu peut-être l'équivalent du bien-être animal, dans le sens où le bien-être animal, c'est vraiment un aménagement. C'est pas oh merde, on a fait des productions animales industrielles, en fait ça va pas du tout, ça fout en l'air la planète, les animaux ils sont malheureux, les abattoirs ils sont surdimensionnés, il y a de la cruauté et tout. Non, c'est bien-être animal, c'est un truc d'aménagement pour faire en sorte que les trucs ils restent surdimensionnés, industriels et inhumains, mais avec un petit truc derrière, avec un agronome qui vient voir, qui dit « Ah, quand même, ça serait bien s'il y avait 10 cm de plus ici, ça serait bien s'il y avait 5 secondes de plus par là. » Et c'est une logique d'aménagement, en fait, pour faire supporter le truc soit aux gens qui mangent des animaux, soit aux gens qui bossent dans l'entreprise. Donc, c'est une logique d'aménagement, et eux, ils veulent pas être complices de ça, donc ils racontent pourquoi.
Ouais, c'est des manières de vouloir moraliser le capitalisme.
Pas que moraliser, le faire tenir plus longtemps, quoi. Le rendre acceptable plus longtemps. Ouais.
Qu'est-ce que tu reproches à Pierre Rabhi, au mouvement des Colibris? Comment tu...
Eh ben alors, Pierre Rabhi, moi, je l'ai découvert en 2002. Et j'avais écrit pour mon petit journal, enfin c'est pas mon petit journal, mais un petit journal auquel je commençais à contribuer. J'avais écrit un truc sur l'insurrection des consciences et c'était génial, tout ça. Le seul truc qui m'avait un peu pas plu, c'était il y avait après son discours de Pierre Rabhi, il y avait Graham Allwright, là, le mec qui chante Jolie bouteille, sacrée bouteille, qui chantait des trucs, ça j'aimais bien. Mais après, le truc qui allait pas du tout, c'est quand il y a une dame qui est intervenue. Genre un peu babos, avec l'arrêt au milieu, des très très longs cheveux, et qui disait que la femme, c'était comme la terre, il fallait la labourer avec douceur, enfin des choses qui me gonflaient d'essentialisme par rapport notamment au truc des femmes. Et alors récemment, à une rencontre dans les Cévennes, qui est un peu le fief de Pierre Rabhi, j'ai rencontré, lors de la discussion, il y a une dame qui a pris la parole, qui nous a raconté qu'elle était conseillère conjugale, et que les femmes... qui sont prises dans ces trucs-là, enfin qui sont dans ces milieux-là de Pierre Rabhi, qui vont de la permaculture à la sophrologie, ou qui sont dans ces trucs-là de pratiques de bien-être, de vraiment reconsidérer les trucs, eh bien elles sont pas moins que les autres victimes de violences conjugales. Mais en revanche, elles sont vachement plus difficiles, enfin elles répugnent vachement plus que les autres femmes. À pointer du doigt qu'il y a quelqu'un qui les agresse et à s'en protéger en partant. C'est-à-dire que comme on leur a appris des trucs de pensée positive et de surresponsabilisation de soi-même, et qu'en fait, quand on a un problème, il faut se travailler sur soi-même, plutôt que quand on a un problème, il faut essayer de le résoudre. On peut le résoudre aussi en interrogeant le monde autour de soi, en essayant de changer le monde autour de soi et pas que soi-même. Et donc ces femmes, quand elles ont des problèmes de violence conjugale, quand elles sont victimes de violence conjugale, on les retrouve tout le temps à faire des stages de ci ou ça, et à dire à leur conseillère conjugale « Non, mais ça va aller et tout, je suis en train de faire un stage de ci, de ça, et je pense que ça va, je vais m'améliorer, et comme ça, mon mec, il va moins me frapper. » Et ben en fait, ça marche pas. Et du coup, c'est assez accablant de voir que un truc qui est censé donner du pouvoir aux gens, dans le sens il y a des trucs dans la vie, on ne peut pas changer tous les trucs qu'on voudrait, donc on peut exploiter au moins les trucs qu'on a en soi pour essayer de changer ça, essayer de s'accomplir au maximum, devenir plus costaud, plus fort. Et une partie du mouvement féministe, il tient aussi à ça. Féminisme, ce n'est pas juste changer le monde, c'est aussi... faire en sorte que les femmes soient plus fortes aussi, alors plus fortes individuellement et plus fortes collectivement. Mais c'est vrai que c'est une dimension aussi de la lutte féministe, il me semble. Et tout ça pour dire quoi? Je me souviens plus, je me suis perdue dans mon raisonnement.
Il y avait l'idée de responsabilité. Ouais. En fait, les gens, finalement, sont responsables s'ils n'arrivent pas. Donc, c'est-à-dire que même en...
Ouais, en fait, elles sont surresponsabilisées, du coup, par ce truc-là de...
Et culpabilisées aussi. Ouais. Si,
de travail sur soi-même. À quel point que c'est le seul outil qu'elles ont pour essayer de changer la situation, c'est de changer... c'est de se changer elles-mêmes et pas de blâmer ce qui se passe, enfin, de blâmer, de pointer du doigt des trucs, des culpabilité qui chez les autres et tout. Et du coup, on se retrouve avec des femmes qui osent pas dire pointer du doigt leur mec en disant « ce mec est un mec violent, il me fait mal, je m'en vais ». Et c'est vrai que ce truc-là, cette réponse à... je sais pas, vous racontez un truc un peu dur et tout, et puis il y a toujours quelqu'un, enfin bon, il n'y a pas toujours quelqu'un, mais si vous n'avez pas de chance, il y a toujours quelqu'un qui va vous dire « oui, mais ça, on ne peut rien y changer, l'important c'est que tu travailles sur toi-même et tu verras ». Et en fait, c'est une fabrique à impuissance. Et ça se veut comme une fabrique de puissance, et c'est une fabrique à impuissance aussi, dans le sens où on n'est plus capable de s'énerver, de se foutre en colère contre le reste du monde, et d'essayer de le changer. Alors je dis pas qu'on arrive à le changer à tous les coups, et c'est même parce qu'on n'y arrive plutôt pas, et c'est même parce que les temps sont plutôt sombres, et c'est même parce que le changement social il est plutôt négatif que positif, et que voilà, on se replie sur des trucs qu'au moins on peut changer, et donc ça serait au moins on peut changer notre regard sur le monde, au moins on peut...
Ça veut dire en fait qu'on ne regarde plus les dominations qui peuvent être exercées, quoi, que ce soit de genre, que ce soit de classe,
avec
le développement personnel, on évacue tout ça en fait.
C'est négatif. En fait, il y a un truc aussi du positif à tout prix, c'est que quand on pointe des rapports sociaux qui sont injustes, qui sont inégalitaires, tout ça, ben en fait, on a un discours qui est négatif, désagréable, voire, comme je disais, quand on se dit qu'on ne peut pas y changer grand-chose, voire un peu accablé et triste et déprimant. Et du coup, il y a des gens qui préfèrent pas penser ces rapports-là, et puis voir, bon, n'y pensons plus, voyons ce qu'on peut changer là tout de suite maintenant. Et alors, ce qu'on peut changer tout de suite maintenant, c'est soi-même et son regard sur le monde, mais c'est aussi des fois, ce qu'on peut changer, c'est, bon, ben c'est vrai, on est dans une société où on produit vachement de déchets, alors des déchets nucléaires, des déchets énormes, tout ce qui est dans le supermarché, qui est en plastique, qui finit en déchets et tout, mais on se dit quand même, on peut faire quelque chose en faisant en sorte que dans la rue en bas de chez soi, au moins, il y a un compost. Et alors, c'est pas pour dire que c'est pas bien le compost, hein, c'est pour dire qu'à la fois, l'impression aussi des fois qu'on fait le compost parce qu'on n'ose pas se poser le problème des déchets de manière politique, comment on gère ces déchets sur cette planète. Parce que ça nous semble un sujet trop gros, en fait, donc on se limite à des sujets plus petits.
Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, c'est compliqué de critiquer ce genre d'action qui, pourtant, bon, il y a les jardins partagés, l'habitat groupé, le do it yourself, c'est plutôt mignon et a priori, à minima, on va se dire c'est pas révolutionnaire, mais au moins ça fait pas de mal. Mm-hmm. Mais en fait, ce que je crois que tu montres aussi, c'est que ça reproduit en fait un ordre social. Donc c'est...
Ouais. Alors
Tu peux peut-être montrer par un exemple ou par...
Ouais, et puis tu pourras en donner des exemples aussi de ta part. N'hésite pas. Mais oui, c'est pas que ça fait du mal, c'est pas non plus que c'est anodin non plus. Et il y a quand même des choses. Et je pense en tout cas une chose qui est un peu toxique, c'est de se dire que c'est des solutions à tout, que c'est la panacée et que c'est absolument génial pour la vie, pour les gens, parce que ça reproduit des dominations de classe. Moi, c'était surtout ça qui m'avait intéressé. C'est comment est-ce que par exemple dans le do it yourself, ce truc-là de faire, voilà, on est déculturé, on sait plus faire plein de choses de la vie quotidienne, des choses qu'on produisait à la maison, chez soi, on sait plus le faire. Et du coup, on se reculture aussi en apprenant à faire ci, à
des choses manuelles.
Des choses manuelles, on fabrique, on redevient des fabricants et tout. Et comment cette idée, elle en venait aussi elle en venait à flatter un individu en majesté et à permettre à des gens qui avaient déjà beaucoup, beaucoup de capital et qui savaient déjà faire beaucoup de choses de finalement être encore plus puissants quoi, dans leur vie. Et au final, à complètement méconnaître et manquer de reconnaître et voire mépriser le boulot de gens qui, c'est pas un hasard, sont moins bien lotis qu'eux dans l'échelle sociale, quoi. Et donc des artisans, des gens qui ont des professions qu'on dit manuelles, et puis toutes sortes de métiers en fait. Et comment est-ce que Du coup, le do-it-yourself individuel, ça a créé, ça, c'était un truc d'indépendance qui n'était pas tant de l'indépendance par rapport au système. Parce qu'en fait, quand on a une machine à pain ou un four électrique, qu'on achète sa farine à la Biocoop et qu'on sort l'eau du robinet, ben, l'indépendance, elle est toujours là. Mmh. Et en revanche, ce qu'on coupe, c'est l'interdépendance, c'est le fait d'avoir un boulanger en bas de chez soi qui fait du pain et qu'à travers une certaine spécialisation, il y avait des liens sociaux en fait, il y avait des liens qui se créaient entre les gens. Et alors c'est vrai que si ces liens sont marchands, ils sont souvent marchands, mais finalement c'est un peu moins grave que l'idée que chacun aurait son petit pavillon où il saurait faire tout, et quand il saurait pas faire, il regarderait sur internet, et comme ça il aurait plus besoin d'aller parler à ses voisins, quoi. Mmh. Et plus besoin d'échanger avec eux. Donc c'était sur le do it yourself, c'était cette idée là donc de la classe sociale qui trouve le plus de satisfaction dans le do-it-yourself et qui fait le plus de choses et qui est le plus contente de faire avec ses mains, tout ça, c'est des gens qui ont déjà beaucoup de gratification par ailleurs.
Mmh. Ouais, ça se voyait à Brest, il y avait des...
À faire du pain.
Ouais, il a été construit aussi à plusieurs.
Oui, je donne l'exemple du four à pain qu'on fait collectivement plutôt que de faire sa fournée de un pain dans son four électrique qui chauffe pour rien.
Ouais.
Et les jardins. Enfin, oui, les jardins, c'est toi qui en parles.
Moi, j'ai travaillé donc dans un patronage laïque, c'est une sorte de centre social, et j'étais animatrice de vie locale. Mon travail était d'accompagner les habitants dans leurs projets et les initiatives. Donc tout ce poste financé par la CAF avec plein d'attendus autour de la participation des habitants. Et c'est vrai que moi, au début, quand j'ai commencé à faire ce travail-là, je trouvais ça super, en fait, j'étais à fond dedans. Je trouvais ça trop bien de développer les jardins partagés, pour la dimension écolo, et surtout, moi, de mon point de vue, c'était la dimension sociale, faire se rencontrer les gens. J'étais très imprégnée aussi.
Parce que juste, je fais une petite parenthèse pour dire que le jardinage, c'est vraiment une activité qui est transclasse. Et je cherche depuis le début, depuis que j'ai écrit le bouquin, je cherche une activité qui réunit à ce point les gens de différentes classes sociales et qui n'est pas marquée. Ben, le sport, ça ne réunit pas. C'est quand même assez marqué socialement, le sport. C'est vécu comme un truc plutôt populaire, le foot par exemple, ou l'escrime. Ce n'est pas exactement la même sociologie. Alors que le jardinage, potentiellement, ça peut réunir des gens. Et d'ailleurs, ça le fait souvent.
Oui. Et ça s'observe, chacun dans son jardin, il y a pas du tout sur les mêmes modes, en tout cas, ils n'avaient pas les mêmes attendus vis-à-vis de ce jardin, clairement. Mmh. Ils avaient envie de ramasser les patates et pas de discuter de comment
on va ramasser les patates.
Ramasser les patates, ouais. Et globalement, en tout cas, il y avait quand même plus de gens qui étaient intéressés à comment on allait ramasser les patates. Mmh. Et du coup, ça faisait fuir les autres. Mmh. Et après, avec plein de belles choses qui se font sur les jardins, mais aussi, c'est surtout finalement, moi, le côté où j'avais le sentiment de participer à la paix sociale. Mmh. Parce que finalement, à travers mon activité, moi, d'animatrice de vie sociale dans un quartier, je rebondissais sur des envies des uns des autres et je leur faisais passer l'envie de faire la révolution. J'agrémentais leur quotidien quelque part du loisir, votre quartier sera un peu plus joli parce qu'il y aura des petites fleurs là.
Il sera tellement joli qu'en fait, c'est des riches qui vont venir habiter à votre place, chez vous.
Voilà. Après, je me suis rendu compte que je participais aussi d'une... Parce qu'en plus, il y avait une rénovation urbaine.
T'as vu partir des habitants aussi, arriver des nouveaux
Oui. Ouais,
regardez, vous avez tellement bien fait votre jardin qu'il y a des riches qui sont venus. Ah ouais, dis donc, c'est trash, ouais.
Donc voilà. Ouais. C'est...
Mais tu disais, t'avais remarqué quand même des gens qui avaient. C'est moi qui interview maintenant. Mm. Tu disais que t'avais remarqué quand même que il y avait des jardins dans lesquels la majorité qui s'était imposée, c'était des gens de classe populaire.
Oui, alors ça, c'est pas ici dans le centre-ville de Brest, c'est plutôt dans certains quartiers, et c'est très rare, et c'est donc l'association Vers le Jardin qui m'en avait parlé, parce que c'est quelque chose qui leur importe, donc c'est une association qui coordonne les jardins partagés sur le Brest, pays de Brest. Et qui avait, qui disait que ouais certains quartiers, certains jardins, mais qui en fait c'est ceux qui n'ont pas eu de césure entre le jardin ouvrier et le jardin partagé, et qui sont souvent beaucoup plus grands avec beaucoup plus d'espace et avec des personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont plus ou moins transmis les jardins ouvriers
et qui se cultivent en collectif aussi, ou qui sont toujours divisés en lopins.
Divisés en lopins.
Ah ben oui, en fait, c'est le jardin ouvrier qui marche.
Et là, et pour autant, le côté où souvent l'idéologie, justement, va dire « Oui, mais c'est divisé en lopins, donc c'est pas collectif. » C'est pas vrai qu'il se passe pas des choses collectives sur ces jardins-là, quoi. Au contraire, il y a aussi des gens qui disent « Bon, bah moi, j'ai beaucoup trop de patates, faut venir en prendre, etc. »
Ouais, ou qui s'échangent des outils, ou... mais en tout cas, sur qui ont moins d'obligations de concertation et moins d'obligations de parler, en fait.
Oui.
Et de d'argumenter, de conscientiser, d'écouter, de... Ouais. Ouais, moi, j'ai eu les mêmes échos à Lille, parce que je viens de Lille. J'ai pas trop traîné dans les jardins, mais c'est des copines qui m'ont raconté. Et puis, récemment, il y a une thèse qui est sortie sur dans le terrain, c'est les jardins partagés à Paris, et qui fait à peu près les mêmes constats, si j'ai bien compris. Je l'ai pas encore lue, mais elle est parue en livre. Et que donc la difficulté, le fait qu'il y a des intérêts différents en fait entre les gens qui viennent pour manger, et puis les gens qui viennent pour des loisirs. Donc c'est vraiment deux démarches différentes. Et puis le rapport à la parole, le rapport à la concertation. Et ça le ça fait vraiment longtemps qu'on sait. Hein, c'est pas nouveau qu'on sait que les classes populaires, elles ont des difficultés des fois avec ce truc-là de la concertation. Que ça demande, c'est un truc d'un peu, ça demande un certain capital social en fait, d'argumenter, d'être en réunion. Et moi, la première fois que j'en avais entendu parler, c'est un bouquin qui a été écrit en 1996, je crois, qui est sorti en 1996, qui est un bouquin sur la démocratie, qui s'appelle « Principes du gouvernement représentatif ». Et c'est un article qu'il avait écrit en suivant, et dans lequel il y avait beaucoup de gens qui disaient la démocratie directe, ça s'accompagne aussi de beaucoup de délibérations. Et lui disait attention, parce que délibération, c'est toujours les mêmes personnes qui s'en saisissent, et les autres ont beaucoup de mal, et c'est pas un truc franchement démocratique. La délibération, c'est très sympathique, mais c'est pas forcément un truc... Enfin, c'est assez marqué socialement, quoi. Mmh. Et comme, en général, les gens qui font les tendances, ou même les gens qui apportent des idées aux institutions et qui les mettent en œuvre et tout, c'est plutôt des gens des bourgeois ou petits bourgeois, c'est vrai que les gens de classe populaire, et puis leur ethos et leur manière d'être, elle n'est pas souvent prise en considération, quoi. Et voilà, quoi. Donc, ce truc de... Il y a des gens qui sont des super bons voisins de jardins ouvriers, et qui sont pas et ça fait pas d'eux des gens qui sont des super membres d'associations de jardins partagés, quoi. C'est vraiment des manières d'être aux autres qui sont complètement différentes. Donc oui, c'est un peu tristouille, quoi, de voir que ces jardins là ça développe parfois aussi vachement de violence en fait, sociale, d'exclusion, de tout ça. Moi, j'ai des amis qui ont été virés de leur jardin partagé parce que les gens du jardin n'aimaient pas les enfants. Et bon, ils avaient des enfants, donc... Et du coup, ça veut dire qu'on est beaucoup plus près les uns des autres, et des fois, on est moins tolérant aussi par rapport aux uns et aux autres.
Je vois l'heure qui tourne, alors ouais. Je vais avancer sur ton blog. Il s'appelle « Mon blog sur l'écologie politique ». Alors, c'est quoi l'écologie politique ? C'est quoi l'objet de la lutte, du coup ? Comment la lutte écologique peut devenir subversive ?
Waouh, je sais pas. Mais moi, l'écologie politique, c'est un truc que, dans le livre, j'oppose aux alternatives écolo. Parce que les alternatives écolo, c'est plutôt ce truc-là de dire... bon, ben voilà, on sait que les agriculteurs, ils foutent plein de pesticides et que les abeilles, elles meurent et tout... On sait qu'on consomme trop de viande, et puis qu'il y a des problèmes d'effet de serre. On sait qu'il y a trop de monde qui prend sa bagnole, et puis trop de marchandises qui circulent dans le monde, et que ça. Mais ce qu'on va faire, c'est des petits bouts près de chez soi. On va essayer de changer les choses en faisant des choses par en bas, qui vont donner l'exemple. Et les gens, ils vont regarder ça, ils vont dire « Waouh, c'est trop bien ta vie, comment je peux faire ?» et tout. Et puis ça va se diffuser comme ça va faire tache d'huile. Et alors bien sûr, il y a des résistances qui sont capitalisme et tout, les intérêts économiques. Mais quand même, l'un dans l'autre, on est en train de changer la perception des gens, quoi. Et en fait, ça fait longtemps qu'on fait ça. Chaque fois que ça change, eh ben, quelqu'un pour récupérer ça derrière. L'exemple que je donnais, c'est l'exemple de l'agriculture bio.
Oui.
Par exemple, en agriculture bio, il y avait vraiment ce truc-là de l'offre et de la demande. Et on se dit, bah, si il n'y a pas assez de pourcentage de terres qui sont cultivées en bio, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de gens qui voulaient manger bio. Et donc ça, c'était, mettons, en 2000. Et après, bah, ce truc-là, il arrive. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent à manger bio. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent aussi. Et donc, il y a ce mouvement aussi où on sent que les parts de marché, elles augmentent. Et ce qui se passe depuis 2-3 ans, c'est qu'il y a des gros acteurs capitalistes qui viennent acheter une petite marque de produits, de trucs de transformation de légumes du Sud-Ouest bio qui avait réussi à se faire un petit marché dans toutes les boutiques bio de France. Et ensuite, bah, ils gardent l'étiquette. Et derrière, bah, ils transforment des trucs qui viennent d'Espagne, des gros trucs. Donc il y avait déjà une petite crise de croissance aussi de la petite boîte du Sud-Ouest, mais avec une boîte qui est une encore plus grosse boîte, avec une grosse force de frappe. Et du coup, bah, maintenant, il y a des gros industriels de la bio, enfin des gros industriels de l'agroalimentaire, qui se mettent à investir le marché bio en rachetant des marques. Alors on a l'impression de loin que c'est les mêmes produits, alors qu'en fait, ils sont cultivés de manière vachement différente, avec des conditions sociales encore pires, avec des conditions avec de monoculture encore pires, avec des nécessités de transport encore pires. Et au final, bah, le petit produit sympa... enfin, il y a tout un marché qui s'était un peu structuré et puis qui réussissait à exister. Et maintenant, il a été complètement bouffé par l'agroalimentaire. Et donc, il reste à des petits producteurs à s'installer, à commencer leur petite conserverie, des petits bocaux, tout ça. Et puis, peut-être, ils grossiront tellement qu'ils pourront se faire récupérer à leur place. Mais du coup, c'est comme si c'était un truc qui était... où on avait réussi à faire en sorte de créer un marché pour plein de gens qui faisaient des produits plutôt sympas. Et de créer un marché, en fait, ça a ouvert les portes. Et donc, en ce moment, ouais, on a plus de bio, mais on a plus de bio de merde aussi. Donc au final, est-ce qu'on n'a pas moins de bio correct à manger ?
La question se pose. Est-ce que c'est encore moins lisible, du coup, par rapport au bio aussi ?
Ouais. Et puis en plus, le label, ils ont vachement bougé. Donc ça fait 40 ans que les pratiques bio, en fait, elles se dévalorisent dans des labels toujours moins exigeants. Et notamment moins exigeants sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan social. Donc clairement, le bio, enfin le marché du bio, c'est une affaire où plus ça marche et plus il y a de gens qui sont dedans et moins ça se diffuse. Dans le sens où ce qui se diffuse, c'est du caca. Et ce qui est chouette, ça se heurte à un truc qu'on pourrait appeler la récupération, sachant que c'est un vieux mot. Qui est souvent un peu galvaudé et tout, mais des fois c'est un peu ça quand une entreprise rachète un petit producteur juste pour pouvoir mettre son étiquette et dessus, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Mmh. Et là voilà, c'est le truc de diffusion par exemplarité, tout ça, il a pas marché, quoi.
Ouais. Oui, on parle d'essaimage, d'égrenage, tout le vocabulaire aussi utilisé par les collectifs de transition citoyenne souvent dans les villes
Ouais, puis il y a aussi un truc qu'on pourrait appeler le plafond. Attends, j'ai un copain qui appelait ça le plancher de verre, dans le sens où on essaie de baisser l'empreinte écologique, tout ça, et puis à un moment, on se retrouve coincé par l'organisation sociale. Et là où ça coince, c'est un peu compliqué, quoi. Donc oui, il y a plein de choses qui se passent, mais au final, qui se heurtent aussi à comment la société est organisée et comment un truc qui marche... il risque d'être aménagé, on va dire, et à changer fondamentalement de sens et de d'espoir, quoi, enfin d'être plus du tout un truc qui donne envie, quoi.
Donc c'est la société capitaliste qu'il faut casser.
Ah ben oui, c'est simple, en fait, si vous voulez si vous qui écoutez et qui vous demandez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, en fait, il faut abolir le capitalisme.
Ouais.
Et après, on pourra abolir l'État aussi. Et puis, puis, ça va être super et tout. Vous inquiétez pas. Allez, au revoir.
Bien, ça fait du bien d'avoir une solution concrète comme ça.
Oui, une solution facile, concrète, faisable. Mais c'est pour ça, en fait, que les alternatives écolo, elles marchent bien. C'est parce que c'est quand même plus... ça pousse plus la pêche de se dire qu'on va faire du compost et puis qu'on va faire un bar associatif pour faire se rencontrer tous les gens du quartier que de dire que voilà que Brest ça va devenir une commune autogérée, qu'il n'y aura plus de conseil municipal et plus de maire et qu'on va virer toutes les bagnoles quoi.
Ouais. C'est pas faux. Qu'est-ce que c'est l'égologie?
Ah, l'égologie. Bon, il faut demander à mon éditeur, c'est pas moi qui ai eu l'idée du titre. Moi, je voulais que ça s'appelle la conspiration des égos. Et égo, EGO. Parce que la conspiration des égos, c'est un mouvement égo, EGAUX. C'est un mouvement de la Révolution française que je ne connais pas très bien. En tout cas, qui est un moment de démocratie radicale. Enfin, un mouvement qui est porté par des gens très, très radicaux. Et du coup, quand je dis la conspiration des égos, ça veut dire que ouais, maintenant, ce qui reste, c'est des nombrils et tout qui se tirent la bourre. Et donc, ouais, je trouve ça que c'est assez rigolo ça, parce que ça rappelait le truc politique super fort. Et puis, de où on en était, c'est qu'on est tous là avec nos égos dans les petits mouvements politiques. Donc, l'égologie... égologie, ouais, il ne faut pas s'arrêter là parce que la conspiration des égos, l'idée, c'était de la... décliné dans tous les mondes que je connaissais où j'avais eu des désillusions. Et notamment, il y en aurait un prochain qui est sur le féminisme. Mmh. Et sur des... Pareil, c'est comme ça que je l'exprime, c'est le... comme ça, je parle... Autant que je parle d'écologie saisie par l'individualisme et le libéralisme ambiant, autant ça serait aussi derrière le féminisme saisi par... Et puis, il pourrait y avoir le gauchisme saisi par... Et puis, il pourrait y avoir l'anarchisme saisi par... Mais chaque fois, il faut que je prenne le temps d'investir de ces milieux, d'être à fond. Yeah, c'est super, c'est génial et tout. Puis d'avoir des grosses désillusions amicales et politiques pour finalement que ça exerce mon esprit critique.
Et puis faire un livre.
Ouais, et puis faire un livre et puis gagner plein d'argent, devenir riche.
Il est 7h moins le quart, je pense qu'on va arrêter ça pour que tu sois à l'heure au rendez-vous à l'avenir et que tu aies le temps un tout petit peu de te vider la tête avant d'y aller.
Tu voulais poser une question?
Ouais, j'avais une dernière question. Enfin, question, c'est une remarque. Toi, tu as écrit un livre que tu voulais appeler La conspiration des égos. Et en face de toi, on a la première dame de la fondation Piquès, donc c'est la fondation des premières dames quoi, qui justement font de l'action sociale quoi, mais version l'association Piquès, et dont le but premier est de répandre le zéro dignité, donc de lutter contre les égos ou contre l'ego peut-être tout court. Toujours EGO. Donc, je sais pas, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça vous inspire à chacune?
Zéro déchet, zéro carbone et zéro dignité. Ouais, pas mal, pas mal. Non, en fait, ce que ça m'inspire, c'est que souvent on dit ah, l'individualisme, c'est mal et tout. Et que moi, je voulais quand même rappeler, c'est ce que je fais dans le bouquin, que l'individualisme, c'est le style de société dans lequel on a été élevé. Et qu'on aurait vachement de mal à changer ça, et qu'il y a des sociétés qui, en revanche, mettaient l'individu au service du groupe, et qui sont des sociétés qu'on appelle traditionnelles, à tort ou à raison, dans lesquelles soit la famille, soit la lignée, soit le groupe, soit le village, la communauté, est vachement important, et dans lesquelles les individus sont broyés, et puis... Alors que nous, on a ce truc-là, cette société-là, où on a vachement de liberté individuelle, où on en profite... où on se permet de ne pas faire le même métier que nos parents, on se permet de ne pas habiter à côté de chez eux, à un jet de pierre de chez eux, et on se permet de ne pas de choisir nous-mêmes les gens avec qui on veut coucher, et ce qui est quand même pas non plus désagréable. Et du coup, quand on stigmatise l'individualisme, c'est aussi un peu se mentir dans le sens où il ne faut pas non plus oublier qu'on a... nous, on est construit avec ça et qu'on en a besoin aussi, qu'on serait incapable de changer de monde social et que ça serait d'une violence extraordinaire. Et que donc, il faut... c'est une question de, plutôt de mesure, en fait, entre l'individualisme et puis le communautarisme ou les sociétés holistes ou holistiques, je ne sais pas comment on dit. Et que... Et donc, voilà, c'est un truc vachement plus ambigu que ah, le mal absolu qui est l'individualisme. Et pareil pour le libéralisme, il y a aussi une dose de liberté individuelle... Et des notions qui sont pas totalement, totalement inintéressantes, quoi. Donc quand on gardait un petit peu de mesure par rapport à la critique de ces deux notions.
Non, c'est vrai que le contrôle social qui a pu avoir ici aussi et qui s'exerce moins, enfin on le regrette pas, mais par contre il a il est souvent aussi invisible, on croit qu'il y en a plus et il faut le dénicher aussi et continuer à le faire parce qu'il y a quand même beaucoup d'illusions qu'on a.
Ouais, ben hier il y a quelqu'un qui disait que le stalinisme c'était pas non plus super sympa, c'était vachement communautaire et les gens ils avaient vachement de liens, mais c'est pas un truc qui est forcément super intéressant politiquement.
Une autre question, monsieur? Bon, bah, on va vraiment rendre l'antenne. Ouais. Merci beaucoup, Aude.
Merci pour l'invitation.
Bah, on va écouter la suite tout à l'heure. On enregistre aussi la partie à l'avenir.
D'accord. Et ben, j'y cours.
Super. À bientôt.